Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, comment allez-vous bien en ce jour béni ? Eh bien, jour béni où nous prenons encore un petit moment pour parler et terminer de parler sur ce magnifique sacrement de la réconciliation. Confions cette catéchèse à la Vierge Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous nous étions arrêtés, chers amis, à cette démarche que fait le pénitent vers le Seigneur en s'approchant du sacrement de réconciliation, et nous avons vu deux, trois choses sur comment concrètement se confesser. Nous nous sommes arrêtés là, à la confession, à l'aveu de nos fautes. Il nous faut maintenant voir cette deuxième partie qui est absolument magnifique, à savoir ce que Dieu, la réponse de Dieu à cette démarche que nous faisons. Après la confession de nos péchés, eh bien, le prêtre qui agit au nom du Seigneur accueille ce que vous donnez au Seigneur. Vous pouvez tout à fait vous adresser d'ailleurs au Seigneur lorsque vous vous confessez, vous, et non pas au prêtre, même si vous avez dit « Père, bénissez-moi parce que j'ai péché ». Bon, certaines générations disent « Je m'accuse, je m'accuse, je m'accuse ». Il faudrait peut-être sortir de l'accusation, de cette plaie de l'accusation. L'accusateur de nos frères est rejeté. C'est le diable qui nous accuse en permanence, jour et nuit devant notre Dieu, et qui dit à nous, devant Dieu, tu vois, t'es pécheur, tu vois ce que t'as fait, t'es vraiment nul, t'es vraiment une lavette. En plus, t'es chrétien. En plus, tu vas à la messe tous les dimanches. En plus, tu es consacré. En plus, tu es prêtre. Alors, plutôt que de dire « je m'accuse », je recommande de parler au Seigneur dans la confession. Et de dire « Seigneur, je te demande pardon pour telle ou telle chose. Je te demande pardon plutôt que... ou pardon, Seigneur, plutôt que de dire « je m'accuse ». Alors le prêtre, il entend tout ça de son oreille consacrée et de sa posture qui consiste à vous accueillir au nom du Seigneur. À travers le prêtre, c'est le Seigneur qui vous accueille, qui vous écoute. Et alors il répond. Il répond et sa réponse magistrale, sa réponse splendide au-delà des petits mots qu'il peut dire, ou des petites prières qu'il peut faire, il va prononcer ces paroles bouleversantes. Non plus in nomine Christi, dans le nom du Seigneur, mais in persona Christi. Je te pardonne tous tes péchés, à travers cette formule de l'absolution. Qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? Nous voyons maintenant les effets de ce sacrement, c'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui vient agir, puissamment, dans l'esprit, l'âme, le corps, dans toute la personne que nous sommes, lorsque nous recevons avec foi, avec profondeur, eh bien, le don de Dieu. Car évidemment, si le sacrement agit ex opere operato, comme on dit en théologie, c'est-à-dire quel que soit l'état de sainteté du prêtre, lui-même il est pécheur et il peut être dans un état... Son âme peut être dans un état, j'allais dire, grave. Quel que soit l'état de son âme, le Seigneur agit. C'est comme dans l'Eucharistie, ex opere operato. C'est extraordinaire, ça aussi, frères et sœurs. Dieu agit puissamment, quel que soit l'état de sainteté de son prêtre. C'est Dieu qui vient te rencontrer dans ce sacrement. Alors, bien sûr, si le prêtre est saint, eh bien, Ça qualifie, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup aussi, bien sûr. Mais ça n'empêche pas le fait que Dieu agit de toutes les façons, puissamment, avec efficacité. Alors, toute l'efficacité de la pénitence, de ce sacrement, consiste à nous rétablir dans la grâce de Dieu et à nous unir à lui dans une souveraine amitié. Le but et l'effet de ce sacrement sont donc la réconciliation avec Dieu. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Chez ceux qui reçoivent le sacrement, ce sacrement de pénitence, avec un cœur contrit et dans une disposition religieuse, il est suivi de la paix et de la tranquillité de la conscience, qu'accompagne une forte consolation spirituelle. Retenons ces mots magnifiques. La paix. Tranquillité de la conscience. Ah, mais c'est un trésor que d'avoir la conscience tranquille, d'être en repos, justement d'avoir cette conscience qui ne nous accuse plus précisément parce que Dieu a agi. Qu'accompagne une forte consolation spirituelle. L'Esprit Saint consolateur. J'y reviendrai sur ces trois aspects qui sont splendides. En effet, le sacrement de la réconciliation avec Dieu apporte une véritable résurrection spirituelle, une restitution de la dignité et des biens de la vie des enfants de Dieu, dont le plus précieux est l'amitié de Dieu. Alors, après ça, frères et sœurs, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut se priver d'un tel trésor. Franchement, se confesser une fois par an, après ça, mais excuse-moi, mais... mais je ne sais pas, moi... Regarde, regarde. Réconciliation avec Dieu qui procure la paix. La paix dans ce monde sans paix, où tu es en permanence en train d'être inquiet pour 15 000 choses en même temps, pourquoi tu te prives de la paix? Tu cherches la paix, poursuis-la, va chercher la paix dans le sacrement de réconciliation. Tu as des soucis de relationnel dans ta famille, tu as des problèmes, tu souffres et tu pèches aussi parce que tu t'énerves, tu t'agaces, tu es dans les reproches, tu es dans les accusations, toi aussi, oui, oui. Tu fermes ton cœur, tu prends des distances, nanani, nanana. Pourquoi tu ne vas pas cueillir la paix du ressuscité? La paix du Christ. Le Christ est notre paix. Pourquoi tu ne vas pas prendre? Pourquoi tu ne vas pas chercher là où elle se trouve, la paix? Je ne te parle pas d'une espèce d'équilibre mental, d'un bien-être physique où ton corps est bien dans telle position ou dans telle respiration, ça n'a rien à voir. Je te parle de la paix du Christ ressuscité, mort et ressuscité, qui par la vigueur de sa passion, la vertu de son sang précieux, te redonne la paix. Alors tu peux faire des positions corporelles. Mais ce n'est pas ça, la paix que Dieu te donne. Tu pourrais croiser tes jambes et mettre tes bras en dessous, je ne sais pas quoi. Ça n'a rien à voir. Je te parle de la vraie paix. Le Christ est notre paix. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous réconcilie avec le Père. Il n'y a pas de réconciliation avec le Père en dehors de Jésus-Christ. Alors pourquoi tu ne vas pas cueillir? Pourquoi tu restes avec tes trucs que tu tournes dans ton cœur, dans ta tête? Va chercher la paix. Elle est là, dans cette parole puissante, dans ce Saint-Esprit qui est déversé. Chers amis, ce sacrement, c'est une Pentecôte. Le sacrement de réconciliation, c'est une Pentecôte. C'est comme la messe aussi, d'ailleurs. On oublie tout le temps le rôle du Saint-Esprit, la mission du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit dans ce sacrement. D'ailleurs, comme on le dit dans la formule de l'absolution, que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde, par la mort et la résurrection de son Fils, il a réconcilié le monde avec lui et il a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission des péchés. Il a envoyé l'Esprit Saint par le ministère de l'Église qu'il vous donne le pardon et la paix. Il y a le pardon et fruit du pardon, c'est la paix. Qu'il vous donne le pardon et la paix. Ce n'est pas un souhait, c'est une formule d'absolution efficace, c'est-à-dire Dieu donne sa paix. Alors s'il vous plaît, attention, attention. Si vous sortez du sacrement de réconciliation et que vous n'avez pas la paix dans votre cœur, c'est qu'il y a un problème. Et le problème, il n'est pas chez Dieu. C'est qu'il y a eu un bug quelque part. Si vous sortez, si on sort du sacrement de réconciliation avec un trouble, alors peut-être que le prêtre, il a dit des maladresses, il a été maladroit, il n'a pas été comme... voilà. Ça, c'est possible. Mais en dehors de ça, si vous avez la foi, il faut sortir du sacrement de réconciliation avec une paix profonde. La tranquillité de la conscience, parce que notre cœur, précisément, comme dit saint Jean, ne nous accuse plus. C'est fini, l'accusation. C'est bon, on arrête. On ne va pas vivre en permanence sa vie en accusé. E accent aigu, E accent aigu, E, et en accusateur non plus d'ailleurs. Alors on a laissé bon. En condamné en permanence. Alors la tranquillité de la conscience, c'est va en paix, tes péchés sont remis, va en paix mon enfant. Vis, va jouer, allez, va jouer. Quand même un petit enfant qui a eu un bobo, il vient, il pleure, et puis il reçoit un bisou de son papa, de sa maman, et puis cette parole va en paix. C'est bon, la conscience, elle est tranquille, et c'est fini. Sèche tes larmes. Arrête le nombrilisme. Profite de la paix. Profite-en. Baigne ta conscience dans la tranquillité, parce que tout a été remis dans l'ordre. La tranquillité, c'est le fruit de l'ordre, disait saint Augustin, repris par saint Thomas, c'est-à-dire que quand mon âme est remise dans le bon ordre, c'est-à-dire remise en Dieu, réconciliée avec Dieu, eh bien il y a la tranquillité de l'âme, c'est normal. Notre âme, frères et sœurs, elle est faite pour vivre en 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au milieu des tribulations. Sacrée école. Alors, paix, tranquillité de la conscience, qu'accompagne une forte consolation spirituelle. Oui, la consolation spirituelle du Saint-Esprit, de l'amour de Dieu pour nous, vaut toutes les consolations humaines cumulées, qui n'arrive pas à la cheville, à la hauteur d'un demi-millimètre que la consolation, de la consolation que nous procure le Saint-Esprit. Toutes les affections humaines, toutes les consolations humaines ne sont que feu de paille par rapport à cette consolation que Dieu donne. L'Esprit Saint consolateur, la consolation que Dieu donne, c'est lié aussi au don de force. Il nous donne la force, il nous ancre, il nous enracine, il nous fortifie, il nous stabilise, vous voyez. La consolation, ce n'est pas simplement « sèche tes larmes, mon enfant ». C'est « je te rends fort, je t'ai entendu, j'ai vu ta misère, j'ai entendu ton cri, je suis descendu pour te délivrer, je t'ai délivré ». Je suis avec toi tous les jours. Ça, c'est une grande consolation. Parce que si le Seigneur est avec nous, alors c'est bon. La panique, c'est quand il n'est plus avec nous. Précisément, le péché mortel fait que Dieu n'est plus là, dans notre cœur. Il est parti. C'est pour ça que c'est grave, le péché mortel. Ça nous sépare de Dieu, de la grâce. Alors, la consolation spirituelle, c'est « ça y est, je suis revenu à la maison. Je suis revenu chez mon Père. » Et c'est l'amour de Dieu qui console, cet amour qui s'appelle miséricorde. C'est-à-dire qu'il va non seulement pardonner nos péchés, mais qui va au-delà du pardon, qui nous rétablit dans la maison. C'est-à-dire qu'on vit. D'ailleurs, la suite dit ceci. Je suis en train de commenter le paragraphe 1468. Le sacrement de réconciliation avec Dieu apporte une véritable résurrection spirituelle. Ce n'est pas que « je te pardonne ». C'est une restitution de la dignité et des biens de la vie des enfants de Dieu dont le plus précieux est l'amitié de Dieu. Résurrection spirituelle, restitution de la dignité. Je précise, par exemple, dans le domaine de la chasteté, de la virginité, des choses qui sont liées à la sexualité, dans son exercice, et dont l'exercice précisément a pu nous abîmer. Le sang du Christ reçu dans le sacrement de réconciliation nous restitue dans notre dignité. Et si nous avons été abîmés dans notre dignité, fréquentons beaucoup le sacrement de réconciliation. Parce que ce sacrement nous restitue notre dignité de fils et de filles bien-aimés de Dieu, qui a été abîmée. Mais bien sûr, la dignité, ce n'est pas que dans le domaine de la sexualité, où on peut avoir été abîmé. Notre dignité profonde restitution de la dignité. Nous pouvons redevenir un être neuf. Et frères et sœurs, c'est extraordinaire parce que vous voyez, nous, les êtres humains, on répare toujours de l'extérieur les choses. D'ailleurs, je remercie Max, technicien qui est avec nous cette semaine, qui fait plein de réparations techniques. Mais vous voyez, nous, on répare les choses de l'extérieur. On essaye d'arranger, toujours. Le Seigneur restitue de l'intérieur les choses. Il restaure de l'intérieur. Vous voyez, quand il y a des guerres, il y a des villes qui sont détruites, des bâtiments, il y a tout à refaire, tout à reconstruire. Le Seigneur, il ne fait pas comme ça. Quand il y a des guerres en nous, des batailles, c'est vrai qu'on y laisse un peu quelques plumes. Mais le Seigneur nous restaure de l'intérieur. N'oublions jamais ceci. C'est source de grande espérance pour nous. Parce que même quand l'extérieur s'en va en ruine, comme dit saint Paul, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Pourquoi ? Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est Dieu qui agit de l'intérieur et qui fait les choses de l'intérieur. Alors nous, on ne voit pas toujours l'œuvre de Dieu parce que c'est caché, c'est secret, c'est à l'intérieur précisément. Et c'est de l'intérieur, à partir de lui. Il nous connaît mieux que nous-mêmes et il agit beaucoup plus profondément qu'on ne le pense, qu'on ne le voit et dont on a conscience. Alors ce sacrement apporte une véritable résurrection spirituelle. L'amitié avec Dieu, une restitution de la dignité et des biens de la vie des enfants de Dieu. Nous ressortons, frères et sœurs, de la confession richissime. Richissime. Nous sommes arrivés comme des pauvres pécheurs en guenilles et nous ressortons avec des habits de fête. une bague au doigt, sandales aux pieds, avec la musique, les danses. Et ça y est, va maintenant. Tu as revêtu l'homme nouveau, tu as revêtu le Christ. Tu as revêtu, tu es devenu une création nouvelle, tu as été restauré, tu as été, oui, guéri. Alors va, vis en fonction de ce que tu es devenu par ce sacrement de guérison qu'on appelle la confession. C'est très important, frères et sœurs, de vraiment croire à cela. Parce que malheureusement, on pourrait ne pas suffisamment prendre au sérieux la profondeur de ce sacrement et repartir du sacrement un peu comme on est arrivé, vous voyez ? Bon, il faut vraiment que je fasse un effort parce que là, je n'ai pas été terrible dans ce carême. Bon, j'ai reçu l'absolution, mais bon, il faut vraiment que je fasse un effort, il faut vraiment que le machin... Et on est encore un peu avec nous-mêmes et on oublie que nous avons été enrichis des biens de la vie des enfants de Dieu. Vous comprenez que le fils prodigue, il est passé ailleurs, une fois qu'il est revenu, il n'est pas reparti dans son itinéraire qu'il avait pris avant, quand il était en train de revenir. J'irai chez mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Ça, c'était avant. Mais une fois qu'il a été embrassé longuement et qu'il a touché l'amour du Père et dont il s'est laissé enrichir à nouveau, il est redevenu héritier. Il avait claqué tout l'héritage. Le voilà redevenu richissime. C'est injuste. D'ailleurs, le fils aîné, il n'aime pas. Ouais, parce que la miséricorde dépasse la justice. Elle l'intègre parce que c'est juste pour le père d'avoir ses enfants chez lui. Le péché est une injustice. Mais la miséricorde intégrant la justice, mais la débordant de toutes parts, eh bien, voilà que nous arrivons chez la maison du Père et que dans la maison du Père, et nous avons tous des trous de partout. Nous avons tous des plaies parce que nous avons tous été blessés, abîmés par le péché, par toutes sortes de choses. Et comme dit Jésus, venez à moi, vous tous qui vous avez été chargés, dit le grec. C'est vrai qu'on a été chargé quand même. Alors venez, je vais vous donner un autre joug. C'est l'amour du Père. Celui-là, il est facile et léger. Il faut partir du sacrement facile et léger, frères et sœurs. Il faut quitter le prêtre en disant « Merci mon Père », mais après il faut danser. Il faut chanter, il faut louer. C'est très important d'être dans l'action de grâce. Alors voilà que ce sacrement nous réconcilie avec l'Église. Le péché ébrèche ou brise la communion fraternelle. Le sacrement de pénitence la répare ou la restaure. En ce sens, il ne guérit pas seulement celui qui est rétabli dans la communion ecclésiale. Il a aussi un effet vivifiant sur la vie de l'Église qui a souffert du péché d'un de ses membres. Rétabli ou affermi dans la communion des saints, le pécheur est fortifié par l'échange des biens spirituels entre tous les membres vivants du corps du Christ, qu'il soit encore dans l'état de pèlerinage ou qu'il soit déjà dans la patrie céleste. Et là, j'arrive à une question d'une auditrice qui disait, ben oui, comment faire ? Parce que est-ce que mon mari qui me trompait, donc, qui commettait le péché d'adultère, si moi, qui ne l'ai pas commis, je me confesse régulièrement, est-ce que ça agit sur son âme ? Réponse, oui ! Bien sûr ! Bien sûr que le péché est personnel, j'espère que, en sortant de ce monde, nous ferons notre dernière confession en vérité. Mais ce sont des vases communicants que nos cœurs. Donc quand on reçoit la grâce de ce sacrement et tous les effets dont je vous parle. Bien sûr que ça agit sur le corps mystique du Christ. Mais lorsque nous parlons du corps mystique du Christ, nous parlons de ceux qui sont sur terre, de ceux qui sont au purgatoire, et ceux qui sont au ciel, ils se réjouissent, car il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se convertit plutôt que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de se repentir. Vous comprenez qu'au ciel, on se réjouit tout le temps. Alors cela n'accroît pas forcément leur charité qui est fixée pour toujours. Mais ils sont heureux, ils sont joyeux de voir des gens qui reviennent vers Dieu et de voir que quand Dieu se donne, quand Dieu donne sa miséricorde, et bien cette miséricorde elle est accueillie dans les cœurs humains sur la terre. Et ils se réjouissent de voir des âmes du purgatoire arriver au ciel. Comment ça se fait ? Eh bien, c'est que la purification est terminée et que, ben voilà, donc au ciel, ce n'est que joie, tout le temps. On rend, ils sont déjà joyeux à 100%, si vous les mettez au ciel, c'est de 100% à 100% tout le temps, on passe de plénitude en plénitude. Bon. Mais on réjouit le ciel lorsqu'on va se confesser et qu'on reçoit l'absolution avec ferveur, profondeur, foi et une belle disposition religieuse. Voilà. Et alors, lorsqu'on reçoit les effets de ce sacrement pour nous ici-bas, sur cette terre, eh bien, les âmes du purgatoire aussi s'en trouvent vivifiées. Elles ne sont plus ici-bas, elles ne peuvent plus demander pardon, elles ont vécu leur jugement personnel, c'est fait, mais elles sont fixées au purgatoire pour une durée indéterminée, ou plutôt déterminée selon Dieu, et avec lequel elles sont complètement d'accord. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, leur volonté humaine est complètement accordée à la volonté de Dieu, et elles acceptent de vivre cette purification pour aller au ciel. Alors nous pouvons faire bénéficier à ces âmes qui ne sont pas encore au ciel, eh bien le fruit de ces sacrements que nous recevons ici-bas, car nous sommes liés les uns aux autres par le Christ dans le mystère de la communion des saints. Ça s'appelle par exemple les indulgences. C'est la doctrine catholique des indulgences dans l'Église et qui sont étroitement liées aux effets du sacrement de réconciliation. Je voudrais, pour terminer, dire quelques mots là-dessus. Donc, quand on va se confesser, on ne se confesse que pour ses péchés personnels. Bon, le péché est personnel. Bon. Mais quand on va se jeter dans les bras de Dieu et qu'on reçoit toutes ces grâces inouïes, eh bien, ce n'est pas que pour nous, c'est pour les autres aussi. L'indulgence est la rémission devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés dont la faute est déjà effacée. Rémission que le fidèle bien disposé obtient à certaines conditions déterminées par l'action de l'Église, laquelle, en tant que dispensatrice de la rédemption, distribue et applique par son autorité le trésor des satisfactions du Christ et des saints. Le Christ a satisfait. C'est un terme très important, c'est-à-dire que la satisfaction, c'est non seulement que Jésus nous a acquis la rédemption, c'est-à-dire le pardon de nos fautes, il a satisfait, c'est-à-dire qu'il a payé la rançon, mais il n'a pas payé la rançon à la hauteur de la dette. Si nous étions endettés jusqu'au cou, c'est le cas, Jésus a pris des paraboles comme ça, dans ce sens, dans l'Évangile. Si, disons, c'était 60 millions d'euros, en fait, Jésus a payé beaucoup plus que 60 millions d'euros. Mais beaucoup plus. Il a surcompensé la dette que nous avions à l'égard de Dieu, car le péché nous met en régime de dette, oui, à l'égard de Dieu qui est juste. Nous sommes endettés envers Dieu quand nous péchons. Et donc, Jésus fait plus que rembourser la dette par son sacrifice. Par sa passion, sa mort, il va satisfaire. c'est-à-dire il va s'offrir au Père entièrement, en ne gardant rien pour lui. Chaque goutte de sang est précieuse et rédemptrice, mais la miséricorde consiste, encore une fois, à faire non seulement à pardonner le pécheur, mais à le réintégrer dans la vie de la grâce et en plus à le suréquiper pour qu'il puisse vivre à fond de la vie nouvelle qu'il a reçue. Alors ça, je ne sais pas comment dire, moi, c'est... Il n'y a que Dieu pour faire des trucs pareils. Alors, la satisfaction du Christ, c'est quoi ? Et des saints ? C'est-à-dire qu'on va puiser, nous, Église, membres du Christ, on va puiser chez les mérites du Christ. Il nous a mérité la vie divine, la vie dans la grâce, il nous a mérité le ciel. On va puiser là-dedans parce que ça fait partie du trésor de la rédemption. On va puiser là-dedans pour non seulement vivre, en vivre nous-mêmes, mais en faire bénéficier les autres. Alors, s'il y a des peines inhérentes dues au péché, eh bien, peines temporelles, eh bien, nous pouvons, nous avons ce pouvoir, ici-bas, sur cette terre, dans le mystère de la communion des saints, eh bien, d'aller faire profiter ces âmes qui sont encore en purgatoire de ces trésors dont je venais de vous parler, c'est-à-dire des effets de ce sacrement. C'est grandiose. Et il faut avoir dans le coin de son cœur, frères et sœurs, lorsque nous allons nous confesser, eh bien, cette dimension communautaire. Encore une fois, le péché est personnel, mais quand je reçois la miséricorde de Dieu, eh bien, ce n'est pas que pour moi. Certes, mon péché est personnel et a abîmé eh bien, la famille humaine et la famille ecclésiale dans laquelle je suis, mais du côté du Rédempteur, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et donc, pourquoi ne pas vivre personnellement et pour tous cette surabondance de la grâce qui découle du cœur du Christ, du cœur de Dieu? Alors oui, frères et sœurs, ayons à cœur lorsque nous allons nous confesser et lorsque nous allons recevoir cette grâce de la miséricorde, eh bien, d'ouvrir notre cœur, pas que pour nous, mais pour tous ceux et celles qui nous sont confiés. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Mathieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.